Alors, c'est Raphaël qui va nous parler de son expérience au Rojava. Je lui laisse le micro.
Merci de me laisser la parole et je remercie Éducation Populaire d'organiser aujourd'hui ce débat. Alors moi, je reviens de Syrie, plus exactement du Rojava. Donc le Rojava, c'est le Kurdistan syrien. C'est un endroit qui est actuellement sous embargo de la Turquie et en partie aussi du Kurdistan irakien et qui s'affronte régulièrement à Daesh, enfin même tous les jours. Voilà. Donc le contexte de mon voyage, il est le suivant. C'est que j'ai étudié pendant 2 ans avant la situation en Syrie, et particulièrement au Rojava, et je voulais savoir en fait de mes propres yeux voir ce qui se passait exactement là-bas pour pouvoir dissocier la réalité sur place. Dans mon voyage, il est 100% autofinancé. On était deux à faire ce voyage et on a traversé l'Irak jusqu'à arriver en Syrie pour justement observer ce qui se passe en place. Alors, d'abord, je vais vous parler dans un premier temps du contexte, comment se déroule le Rojava, qu'est-ce qui est arrivé, etc., la situation sur place. Et ensuite, j'aborderai les mesures sociales qui ont été entreprises sur ce territoire qu'on appelle le Rojava. Et en dernier lieu, nous ici, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est intéressant de voir, etc. Alors, le Rojava est, comme je le disais tout à l'heure, sous embargo total de la Turquie, du Kurdistan irakien. Les conditions sur place sont terribles, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a rien qui passe, que c'est une guerre totale qui mène contre les djihadistes de Daesh sur place, on se retrouve avec un manque de tout, de médicaments, de moyens, et les premiers à partir sur place sont la classe moyenne, donc trouver des gens diplômés par exemple est extrêmement difficile. Voilà. Donc c'est cette situation de guerre totale dans le cadre de la révolution syrienne et du combat contre Assad qui a émergé dans cette zone des conseils autogérés de femmes, d'hommes, de minorités chrétiennes, kurdes, arabes, tchétchènes et autres. Ces conseils se sont organisés d'abord pour résoudre les problèmes de la vie sur place concrète, par exemple le nettoyage des ordures, etc. Et ils ont ensuite pris le pouvoir face justement aux autres factions, on va dire, en Syrie. Ils ont instauré donc un système qui se revendique directement du socialisme, de l'écologie, du féminisme. Ils ont donc appliqué des droits concrets. Par exemple, quand j'étais au Rojava, tous les postes d'élus étaient systématiquement co-gérés par une femme et un homme. C'est-à-dire que quand j'allais rencontrer un ministre ou enfin l'équivalent d'un ministre, ils appellent ça co-responsable de commission, l'équivalent d'un responsable politique, il y avait toujours une ou un responsable à ce poste qui était représenté. Donc un système où on cherche à aller vers l'égalité homme-femme le plus possible. Cette égalité, c'est pas obtenue n'importe comment, elle s'est obtenue par la lutte des femmes principalement kurdes au Rojava, qui se sont organisés en non-mixité pour défendre leurs droits dans ce cadre-là. Ce qui a découlé justement sur le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, l'Assemblée législative de Djezire, donc un des cantons du Rojava, est composée en grande partie de femmes, à plus de 40%. C'est-à-dire que c'est comme si ici, en France, on avait une Assemblée nationale avec plus de 200 députés femmes. Ensuite, ils ont organisé un système de protection des minorités, sachant que les Kurdes sont majoritaires au Rojava. Ils ont mis en place, par exemple, une reconnaissance de la langue syriaque, qui est issue de l'arménien. Et sur place, il y a 3 langues qui sont reconnues dans le canton de Djezire, par exemple, comme officielles. Tous les documents officiels sont donc retraduits dans ces 3 langues. C'est l'arabe, le kurde et l'araméen, enfin ce qui descend de l'araméen, le syriaque. Et quand j'étais à l'Assemblée législative, il y avait 3 personnes qui notaient, par exemple, dans les 3 langues en question, les débats de cette Assemblée législative. Donc, il y a un système comme ça d'organisation et de défense des minorités. Ces conseils, donc, qui gèrent principalement le Rojava, qui sont incarnés par le TEFDEM, donc c'est le mouvement démocratique ou la représentation des conseils, n'ont pas fait un système, on va dire, ils ont fait un système à pyramide inversée, mais pas forcément comme on peut s'imaginer ici européen. C'est-à-dire que c'est pas simple, ça s'appuie pas simplement sur des conseils de quartier. Le principe de base, la base, c'est que si vous êtes concerné par le problème, vous êtes les premiers à décider sur ce problème. Par exemple, à un moment, je me baladais dans une ville où il y avait eu 3 attentats, Tel Tamer. Il y avait détruit l'hôpital, le souk et les garages. Et à un moment donné, je m'approche de la maison du peuple. Et dans cette maison du peuple, il y avait une assemblée de personnes. Et on me dit, ça, c'est l'assemblée des familles des martyrs. J'ai dit, mais pourquoi ils se réunissent en assemblée, les familles des martyrs? Ils m'ont dit, ben, c'est eux qui décident, vu que c'est les premiers concernés par les attentats, de ce qu'ils vont faire des places, comment elles vont être nettoyées, qu'est-ce qu'on va faire de ces places qui sont aujourd'hui donc détruites, est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'on va faire des monuments pour commémorer les attentats, qu'est-ce qu'on va reconstruire à la place des maisons, etc., etc. C'était les gens eux-mêmes qui avaient subi en premier l'oppression, qui choisissaient directement ce qu'ils allaient entreprendre pour justement changer les choses sur place. Et c'est ça qui est vraiment assez énorme au Rojava, c'est qu'on a une démocratie directe qui s'applique de façon concrète. Il y a aussi d'autres choses qui sont symboliques de cette démocratie directe. D'ailleurs, bon, j'invite, si vous voulez vous rapprocher, à vous mettre tout autour, hein, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde derrière pour que tout le monde m'entende bien. Donc, il y a cette démocratie directe qui s'exerce. L'autre chose, par exemple, qui m'a marqué, c'est que je connais des combattants étrangers au Rojava qui se battaient sur le front contre Daesh et ils m'ont expliqué un peu comment ça se passe, par exemple, dans l'armée. Il n'y a pas de hiérarchie comme ici, c'est-à-dire que dans notre armée conventionnelle, par exemple, nous avons des officiers qui décident et qui sont immuables et qui vous donnent des ordres auxquels vous devez obéir. Au Rojava, ça se passe pas comme ça. Dire que les commandants, ceux qui sont donc responsables d'unités ou de tabours, équivalent d'un petit bataillon en France, sont révocables. C'est-à-dire que s'ils plaisent pas aux hommes, ces commandants de bataillon peuvent être révoqués et donc remplacés par un autre du bataillon. Voilà. Donc il y a cette forme de démocratie s'exerce jusqu'à dans les rangs de l'armée. C'est ça qui est assez intéressant et assez impressionnant à voir. Ils parlent énormément politique, comme nous le faisons à Nuit Debout, c'est-à-dire que ce soit au sein de l'armée ou même des Asaïch, ce qu'on pourrait appeler la police. Mais bon, j'ai vu que c'est une police. Enfin, quand vous voyez les Asaïch jouer avec les gamins du quartier au ballon et ensuite protéger les gens, vous n'avez pas l'impression d'avoir affaire à une police, mais plutôt à des unités de protection populaire, des quartiers, de gestion. Et ces personnes-là se réunissaient aussi également en assemblée pour décider voilà comment on va faire pour régler les problèmes des quartiers. Ils discutaient politique. Oui, alors qu'est-ce qui est important de faire au Rojava? Est-ce que, par exemple, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la Turquie? Comment on soutient les amis kurdes de Turquie? Etc, etc. Donc il y a toute une ébullition, une discussion politique générale qui se passe là-bas d'une importance énorme et qui aujourd'hui est complètement ignorée en France. C'est-à-dire que le fait que, normalement, ça aurait dû attirer énormément l'attention, le fait que des gens se réunissent en assemblée, décident démocratiquement de leurs élus, et une représentation, ce qui ressemble à une démocratie radicale, comme beaucoup y aspirent ici à la Nuit Debout, et pourtant un manque d'informations sur ce sujet. Donc pour continuer, j'ai également été à Kobané, la ville, vous savez, où les Kurdes ont réussi à battre l'État islamique. La ville est complètement actuellement ravagée, c'est-à-dire qu'ils reconstruisent tout, mais il y a quasiment plus moyen, et ils viennent de rétablir l'électricité. Pour vous donner une idée des conditions d'existence sur place, il n'y a pas d'électricité, il n'y avait pas toujours l'eau potable, les gens, c'était la débrouille, quoi, un peu dans le mode de fonctionnement sur place. Et quand j'y étais, par exemple, l'un des trucs qui marque le plus, c'est aussi l'état du système de santé. À un moment donné, je me suis retrouvé dans une salle à Mouda où il y avait toutes les réserves du Rojava en termes de médicaments qui étaient représentés. Et bon, la salle c'était 15 mètres carrés et la moitié des étagères était vide. Ces médicaments en question, c'était par exemple des médicaments contre les maladies auto-immunes, contre les problèmes de greffe, etc. Qui donc des questions de survie pour les gens. Et donc ils avaient aucune réserve. Et ça va, pour vous donner une idée, c'est 3 à 4 millions d'habitants, un territoire aussi grand que le Liban à l'heure actuelle. Voilà. C'est assez déplorable cette situation. Pour continuer, alors je finirai donc plus sur ce qui se passe ici, bon, parce qu'il va y avoir un débat et je sais pas combien de temps il me reste. Je peux parler une heure du sujet. Bon. Ouais. D'accord. Ben, parce que moi je suis pour, bon, s'il y a des, je pense qu'il y a plein de questions qui vont se soulever lors d'un débat, donc ça sera, si des gens veulent poser des questions, allez-y, ça serait super. D'accord. Donc, on me dit que bon, pour continuer, donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est-à-dire que en France, il y a quand même une forte présence de la minorité kurde qui justement soutient le Rojava, qui organise régulièrement des manifs, qui ont quand même subi un assassinat en 2013 de trois de leurs cadres féminins. Sakine, Leyla et Fidan, qui ont été assassinés par des agents turcs, par un agent turc sur place de façon assez, professionnelle. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin que la Nuit debout s'empare de ce sujet pour qu'on soutienne plus en avant en fait cette question aujourd'hui du Rojava, parce que à quoi on aspire ici à Nuit debout, si ce n'est à plus de démocratie et à une démocratie radicale où justement on changerait les choses, où il y aurait vraiment une écoute de la voix des citoyens. Et une partie de la réponse, selon moi, en fait, est détenue au Rojava et par ce système de conseils et d'organisation où les premiers concernés sont ceux qui décident. Et c'est pas quelqu'un d'en haut, quelqu'un d'ailleurs ou un étranger qui va décider à votre place de ce qui est le mieux pour vous. Et c'est ça, justement, tout le sens de la démocratie, c'est que c'est pas simplement voter, c'est pas simplement pouvoir élire des représentants, c'est avant tout et surtout pouvoir décider ce qui est bon pour nous, avant tout, donc en tant que groupe social opprimé ou autre avec ses propres intérêts. Voilà. Donc, s'il y a des questions, je vais faire tourner le micro un peu.
C'est pas une question, c'est juste parce que t'as fait.
Si tu te mets là, ça marche.
Ah oui, ok. Non, ça ne marche toujours pas. Désolé, il veut pas de moi.
Comme ça.
D'accord. Comme ça, ça marche. Ok. Tout à l'heure, t'as dit que dans l'armée, les hommes pouvaient révoquer leur commandant. T'as oublié de dire que l'armée était mixte et que les femmes représentaient aussi une énorme partie des forces armées. Il faut que tu précises ça.
Ouais, il y avait une autre intervention, là.
Bonjour. Moi, je considère qu'on n'est pas dans une démocratie en France et... Donc, il me semble que le problème, quand on essaie de mettre en place une vraie démocratie, c'est qu'il faut prendre en compte l'avis de beaucoup, beaucoup de personnes, ce qui est très difficile. Et donc, dans la situation au Rojava, ils arrivent à faire des conseils, même à des échelles de grandes villes. Tu parlais de villes détruites. Donc, je voulais savoir un peu comment se déroulaient ces phases de débat, de prise de décision. Comment ils faisaient pour que tout le monde puisse intervenir, ou en tout cas le plus de personnes possible, et comment étaient prises les décisions, à majorité, enfin voilà, des choses comme ça.
Ok. D'autres questions? On était deux et je suis pas journaliste. C'est par initiative personnelle. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai un blog, je pourrais vous donner l'adresse à la fin si ça vous intéresse. Alors là, donc j'ai eu deux questions, enfin plus une intervention. Alors il y a eu, j'ai commencé par la question démocratique et la question ensuite des femmes au sein de l'armée des YPG, YPJ. Alors sur comment ils s'organisent, très bonne question. Alors vous avez la, on va dire entre guillemets l'unité de base qui est le conseil de quartier. Là, les gens sur la base du volontariat se réunissent par quartier, dans en général la maison du peuple ou un endroit disposé pour. Et voilà, ils disent par exemple, nous dans notre quartier, il manque, je sais pas, d'une boulangerie. À partir de là, d'autres quartiers se réunissent, ils font par exemple la proposition à d'autres quartiers. Et, oui, effectivement, là où il y en a, il nous faudrait une boulangerie. Ça remonte au conseil de la ville qui discute du débat et qui disent effectivement peut-être qu'il manquerait une boulangerie. Et à partir de là, en fait, ils voient déjà si au niveau du quartier ils ont les moyens de mettre en place la boulangerie. S'ils n'ont pas les moyens, ça sera le conseil de ville qui va justement en débattre pour voir avec les moyens qu'ils ont au niveau du conseil de ville. Et si c'est pas le conseil de ville, ça remonte jusqu'au niveau du canton, parce qu'ils sont organisés en canton. Au niveau du canton, au niveau de l'assemblée du canton, ils font, on leur pose la question est-ce qu'on peut débloquer des budgets ou les moyens pour faire une boulangerie dans le quartier spécifique. Et là, en général, c'est décidé, c'est acté, etc. Mais ce qui est important, enfin, souvent, c'est l'initiative en fait qui part de la base et ensuite, ça remonte jusqu'au point où on peut le régler. C'est-à-dire que si ça peut être réglé au niveau du conseil de ville, ça sera réglé au niveau du conseil de ville. Si ça peut être réglé au niveau du quartier, ça sera réglé au niveau du quartier. C'est-à-dire qu'ils essayent de localiser, décentraliser un maximum l'État sur place pour éviter en fait que ça remonte au plus haut et que ça soit justement directement les gens qui décident. Donc c'est comme ça que ça s'organise sur chaque proposition. C'est à chaque fois on passe à l'échelon supérieur et ça remonte tant qu'on peut pas le régler à tel ou tel échelon. Voilà. Mais ils privilégient surtout l'échelon de la ville, de la commune, en fait, qui est le centre et l'unité un peu centrale du Rojava. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe sur la prise de décision. C'est-à-dire.
Au niveau d'un même échelon, comment ça se passe? Tu parlais de différentes échelles, voilà. Pour une seule échelle, bon, ça va quand même réunir, je pense, des dizaines, des centaines de personnes. Comment le dialogue se fait?
Alors, le dialogue, il se fait tout simplement dans les réunions ou dans les lieux faits à cet effet. Alors, j'ajouterais quelque chose qui pourrait nous intéresser d'un point de vue judiciaire, mais qui rejoint totalement cette question du dialogue. C'est comme partout dans le monde, ben, au Rojava, il y a des problèmes de voisinage, des vieilles embrouilles entre voisins ou entre communautés, beaucoup. Ben, quand les colons arabes sont arrivés et qu'ils ont viré les Kurdes des terres où ils habitaient, ben, il y a des vieilles rancunes, forcément. Alors comment ils ont fait pour résoudre tous ces problèmes qui sont dus justement à cette exploitation, cette différence entre communautés? Ils ont fondé ce qu'on appelle les comités de la paix. Les comités de la paix donc sont rattachés au conseil de quartier ou au conseil de ville, et c'est ces comités de la paix qui traitent tous les problèmes de voisinage, des petits délits, donc vols, etc. Et il n'y a que les crimes graves qui ne jugent pas et qui sont là mis en place pour des tribunaux, par des tribunaux spécifiques. Ces comités de la paix, donc par le fait de faire dialoguer les personnes qui s'arrangent pas et dans leur communauté régler par des compromis le problème qui s'était soulevé, ont fait diminuer le taux de criminalité de façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a eu 20 000 cas comme ça qui ont été réglés par des compromis. Bon, tu m'as peut-être volé quelque chose sur cet étage, mais si tu me rembourses ou si on en discute, voilà, on va trouver quelque chose si ton... etc., etc. Et en fait, ils ont arrangé les choses par un système de compromission, de discussion entre les gens, justement, la plupart des problèmes de criminalité. Voilà. Ça a même été plus loin dans certains cas, c'est que vu que la démocratie s'exerce, à un moment donné, il y a eu le cas d'un meurtre qui avait été exercé un homme contre un autre homme, parce que bon, ça se passerait différemment si ça avait été une femme qui avait, par exemple, été assassinée. Il y a la communauté qui a demandé la libération de la personne, en disant, voilà, nous on sait que c'est un criminel, on est au courant de ça, il peut revenir sachant que tout le monde est au courant de ce problème-là. Ça sert à rien, il a compris son problème, il s'est excusé, il y a eu un dédommagement à la famille de la victime, etc. Et donc ils l'ont libéré avant la fin de sa peine, par exemple. parce que la démocratie locale, ils ont respecté les volontés de démocratie locale. Voilà. Et donc, ce n'est pas un système qui est pensé dans le répressif. C'est un système qui est pensé pour dire, voilà, la prison, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes, c'est que les gens comprennent pourquoi il y a eu un problème, c'est ça, comme ça qu'on règle les choses. Voilà. Donc ils sont pas du tout dans la même logique judiciaire. Voilà. Sachant que quand même les problèmes, par exemple les gros problèmes de criminalité qu'on peut avoir au Java, ça, c'est des choses qui peuvent aller loin. C'est par exemple le crime d'honneur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se pratique encore là-bas avec des femmes qui se font assassiner parce qu'elles sont jugées. De façon, enfin j'ai un exemple concret plutôt que parler dans le vide. Il y a, par exemple, quand j'y étais, il y avait une femme chrétienne qui avait été assassinée par sa communauté, sa propre communauté chrétienne, parce qu'elle sortait avec un musulman. Voilà. Donc dans ce genre de cas, il y a ces tribunaux spéciaux et ils ont mis en place une juridiction aussi non mixte pour juger les crimes sexistes. C'est-à-dire que par exemple, bon ça c'est en Turquie, mais il y a également des exemples au Rojava. Quand un crime est fait perpétué contre les femmes, ben c'est les femmes elles-mêmes, un tribunal de femmes lui-même qui juge le crime sexiste. Voilà, donc c'est les personnes concernées qui jugent. Bon, maintenant justement, je vais pouvoir rebondir sur la question de l'armée. Alors oui, les femmes jouent un rôle extrêmement important dans l'armée pas des moindres, et constituent au moins 40% du corps des combattants et combattantes. Ce qui est considérable pour, je crois qu'il n'y a pas d'exemple équivalent au monde avec un tel taux de femmes qui sont armées et en lutte. Cette organisation des femmes au sein de l'armée est autonome. C'est-à-dire que c'est les femmes qui sont organisées de façon non mixte, donc dans leur unité, et qui, au sein même de l'armée, prennent des décisions. Justement dans ce cadre de non-mixité. Et donc par exemple elles jouent des rôles contre le sexisme dans l'armée. Par exemple, le premier truc qu'on fait quand des combattants et des combattantes arrivent au Rojava à l'étranger, ils sont formés sur, et pas qu'à l'étranger, c'est tous les combattants qui sont formés sur ça, ils sont formés à une idéologie antipatriarcale. On leur explique que voilà, la domination masculine s'exerce depuis des millénaires et que c'est mal, et que les femmes prennent les armes, elles se battent à égalité avec les hommes et elles n'ont pas à être soumises à leur domination. Par exemple, c'est très mal vu qu'il y ait un commandant homme quand il y a des femmes combattantes. C'est-à-dire que c'est même interdit qu'un homme commande une femme au sein de l'armée des Kurdes. C'est-à-dire que c'est toujours des femmes qui sont à la tête d'unités de femmes, et c'est des femmes qui donnent des ordres à des femmes et non pas des hommes qui donnent des ordres par exemple à des femmes. Donc il y a aussi, ça va extrêmement loin cette organisation de mixité, et c'est un rôle assez politique dans le sens où par exemple elles ne vont pas s'arrêter simplement à combattre, elles vont également, donc comme je disais, éduquer la population des nouveaux territoires pris à Daesh, souvent justement aux questions de l'antipatriarcat. Elles vont faire des missions humanitaires justement pour se rapprocher des gens et distribuer du blé aux familles, en premier aux mères de famille victimes de la guerre, et des contacts pour discuter et pour instituer une logique antipatriarcale au sein des populations. Donc elles jouent un rôle politique de premier ordre, un rôle militaire de premier ordre qui aujourd'hui est un pilier de la révolution au Kurdistan syrien, au Rojava. Vous avez quelqu'un des questions ou...
La personne qui était la lutte contre Daesh, c'était une commandante. Voilà. Et elle était effectivement, c'est elle qui commandait à la fois les femmes et les hommes.
Effectivement, il y a eu. C'était une co-commandante par ailleurs. Mais oui, effectivement, c'était une co-commandante qui donnait des ordres justement à l'armée en général, qui avait une place de très importante dans la hiérarchie, ce qu'on peut appeler cette forme de... j'ai un peu de mal, mais bon, cette forme de hiérarchie kurde un peu particulière où les commandants sont révocables. Quoi. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, je peux également y répondre.
Bonjour. Petite question, juste concernant ce que tu avais dit sur le fait que certains groupes qui étaient plus concernés par certains sujets travaillaient plutôt sur ces sujets-là. Ça, y compris dans le cadre de ce qui est fait ici, c'est assez intéressant parce qu'il y a des commissions. On essaye justement de ceux qui comprennent, qui sont plus spécialistes, qui sont plus touchés par certains sujets. Oui, pardon, je ne suis pas assez devant. Et du coup, comment c'est organisé pour justement avoir cet équilibre entre éviter une espèce de dictature de la majorité où finalement des gens pas concernés vers le sujet vont donner leur avis et c'est pas forcément très intéressant, et en même temps une excessive capture de certains sujets par ceux qui sont extrêmement concernés, mais au bout d'un moment ça concerne aussi tout le monde. Enfin, en gros, comment là-bas l'équilibre est fait entre ceux qui commencent à discuter de ça? Est-ce qu'il y a une validation après? Est-ce que c'est rediscuté? Et qui décide de qui est plus concerné?
Comment en fait sont, si je pour formuler ta question pour bien comprendre, parce que j'ai pas envie de répondre à côté, c'est, l'idée c'est comment les communautés qui désignent, qui choisissent sont désignées, c'est ça l'idée? Et comment ils le traduisent au niveau de l'intérêt général, c'est-à-dire en quoi le fait que des Syriens chrétiens décident de leur sort, en quoi c'est dans l'intérêt général, c'est dit là, d'accord, pour je puisse Non, mais c'est une question intéressante. Alors, comment les communautés comment on désigne les gens qui sont chargés de décider au Rojava? Alors, je pense en fait que à partir du moment où vous êtes un groupe d'individus qui a une particularité, telle ou telle particularité, ce groupe d'individus peut créer son conseil comme il le souhaite. C'est-à-dire que moi je suis membre d'une famille des martyrs, il y a eu des destructions sur les places, j'ai le droit de me réunir pour dire ce qu'il fait. Donc ça se fait un peu en fonction, bien sûr, des normes sociales qu'il y a sur place. Par exemple, l'importance donnée aux martyrs au Rojava est énorme. Mais aussi, est-ce que les sites du combat qui a été mené, par exemple les femmes au Rojava sont énormément battues pour acquérir les droits qu'elles ont eus. Donc c'est aussi les personnes qui luttent, qui sont en position de lutter, qui justement se réunissent dans ces groupes-là. Et comment on fait passer ça pour l'intérêt de la majorité? Alors c'est assez intéressant. C'est que l'idéologie qui est un peu à la source de tout ça, c'est le confédéralisme démocratique que je vous invite à étudier. Ce confédéralisme, dans l'idée du confédéralisme démocratique, en fait. Pour reprendre un sujet en exemple pour commencer, la question des femmes. Sur la question des femmes, par exemple, Öcalan qui a été là.
On est tous avec toi. On est tout cœur avec toi et réveillons Paris parce que Paris va très très mal à l'heure d'aujourd'hui.
Merci. J'ai perdu le fil. Donc Öcalan, voilà, Öcalan, Abdullah Öcalan, qui est le considéré comme les Kurdes le considèrent comme leur leader, a écrit donc cette théorie du confédéralisme démocratique, et il dit la chose suivante: la question des femmes au sein de la révolution est vécue comme une révolution dans la révolution, c'est-à-dire que on pourra jamais penser être libre si tous les membres de la société ne le sont pas totalement. Donc si les hommes oppressent les femmes, s'il y a ce patriarcat qui se perpétue, on ne pourra pas être libre, parce qu'on sera toujours enchaîné par nos modes de domination et par l'oppression qu'on exerce soit sur l'autre, soit par l'oppression qu'on subit. Par conséquent, si on veut une société où il y a la démocratie, la liberté totale, il faut que toutes les oppressions, quelles qu'elles soient, soient combattues jusqu'à disparaître. Voilà. C'est dans cette optique-là, en fait, qu'ils se disent, c'est dans l'intérêt de tous que les systèmes de domination doivent disparaître, parce que si bien que je sois pas par exemple bien que je sois un homme, c'est dans mon intérêt que les femmes soient libérées, soient du patriarcat, parce que ça nous met dans une optique où je suis un oppresseur pour les femmes dans ce cadre-là, et que c'est pas une solution viable où les gens seraient heureux, où on pourrait vivre ensemble normalement, etc. Donc c'est aussi dans mon intérêt, moi, que les femmes soient libérées, même si je suis pas une femme. C'est dans mon intérêt aussi que par exemple les chrétiens aient la parole libérée, soient libres de leur religion, etc. au Rojava, et de s'organiser à partir du moment où on considère que si on les oppresse en tant que musulmans ou autres, c'est un problème qu'on soit enchaîné en termes de ces relations par ces chaînes de la domination. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire qu'ils disent tant qu'il y a des oppressions, il y a de la lutte, et à partir de là, on a tout intérêt justement à ce qu'il n'y ait plus ces oppressions pour qu'on ait une société réellement libre. Voilà. C'est idéologiquement, c'est comme ça qu'ils le justifient.
Ouais. Alors moi j'ai une question parce que tu parles d'un retour de liberté, d'une volonté de liberté, etc. Mais est-ce que au sein des Kurdes, des bataillons kurdes, il n'y a pas justement un fort contrôle des corps et des individus qui contraste un peu cette idée de liberté?
Alors bien sûr, il y a toujours des limites à une révolution et il y a toujours des critiques à porter. Alors bien sûr, on pourrait, par exemple, les femmes typiquement ont toujours le même genre de coupe de cheveux, on pourrait dire, les nattes derrière le dos. Il y a des uniformes bien sûr qui permettent d'identifier une armée entre guillemets régulière, comme on pourrait l'entendre. Alors bien sûr, je vais pas vous dire et vous raconter des histoires en disant il n'y a pas de contrôle des corps, il n'y a pas rien, il n'y a pas des gens qui ont plus d'importance d'autres par rapport au truc. Par contre, ce que je répondrai à ça, c'est que les avancées sont déjà énormes par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est immense. Et l'autre chose, c'est que ces questions-là vont, à un moment ou un autre, par ce système d'auto-organisation, par ce système d'autogestion, être mis sur la table et justement discuter pour dire que ça va pas. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on identifie des problèmes qui, ils sont quand même dans l'urgence, ils ont Daesh en face d'eux, ils ont la Turquie qui font un embargo total, vous avez une guerre extrêmement meurtrière, extrêmement sanglante avec de la torture, avec des exécutions publiques. C'est-à-dire que imaginez si vous voyez votre ami couper la tête par Daesh sur une vidéo YouTube qu'ils adorent diffuser, vous n'avez pas envie d'être sympa. Voilà. Pourtant, il les torture pas, Daesh. Pourtant, c'est interdit la peine de mort. Voilà. Et quand il y a eu des exactions, parce que forcément, ça arrive dans une situation extrême comme celle-là, elles ont été condamnées. Donc, il y a aussi une justice pour dire, voilà. Donc, bien sûr qu'il y a des limites, et que tout n'est pas parfait, mais ces limites, par le système qui est mis en place, peuvent être dépassées à l'heure actuelle, et j'espère qu'elles le seront à un moment ou à un autre. D'autres questions? Alors, c'est une très bonne question. Oui, c'est vrai que tout le monde n'a peut-être pas entendu. Donc, j'avais une question pour dire, est-ce qu'il y a des influences marxistes? Alors, à l'origine de tout ça, donc les YPG et les YPJ, qui sont donc les unités de défense du peuple et les unités de défense des femmes. Ces unités donc, qui forment l'armée ont été principalement impulsées par un parti au début de la révolution, qui est le Parti de l'Union démocratique, le PYD, qui est un cousin du PKK, le PKK, connu en France, donc sous ce nom-là, qui est actuellement considéré comme une organisation terroriste. À la base, le PKK est une organisation marxiste-léniniste, au sens tiers-mondiste du terme classique. Sauf que, les changements en son sein ont été énormes. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, donc Öcalan, le leader kurde, était emprisonné, et l'un de ses amis lui a recommandé, je crois que c'était son avocat, lui a recommandé de lire un livre de Bushkin, Murray Bushkin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fondateur du mouvement L'écologie sociale, qui, on pourrait dire, appartient au courant du municipalisme libertaire, et atterrit sur le bureau d'Öcalan, et Bushkin, en fait, est super bien. Et il a dit, il faut qu'on récupère ces idées, qu'on l'intègre dans notre propre corpus d'idées idéologiques. Et ils ont donc fondamentalement changé toutes les bases idéologiques du PKK à ce moment-là, pour justement en faire un mouvement avec des influences fortement libertaires à présent. Où l'idée, c'est que maintenant, c'est l'autogestion qui domine, avec une critique parfois très violente par rapport à ce qu'ils ont été. Par exemple, si on lit parfois certains écrits d'Öcalan sur ce qu'a fait le PKK dans les années 90, il n'y va pas de main morte, en expliquant qu'il a envoyé une jeunesse entière à la mort, se faire buter face à l'armée turque, et en expliquant que la fondation justement de l'État indépendant et de la façon dont ils ont procédé opposait deux identités, kurdes et turques, qui n'avaient pas à être opposées en Turquie. Voilà. Donc Et que c'est le colonialisme qui déclenche cette oppression et cette relation de conflit. Donc oui, il y a des influences marxistes à l'origine, il en reste par ailleurs. Hein. C'est un mouvement qui réclame ouvertement du socialisme. Après, ça a dérivé en quelque chose d'assez assez original, qui a un espèce de mixte entre plusieurs traditions, anarchistes et marxistes, et un réformiste également. Qui a abouti au jour. Parce que, par exemple, économiquement parlant, ils encouragent surtout les coopératives avec un maintien de la petite propriété. Voilà. Donc c'est pas un marxiste au sens où ils ont aboli économiquement la propriété privée, toutes les propriétés moyens de production, même s'ils ont collectivisé les terres, même s'ils ont collectivisé une partie des rares restes industriels qu'il y avait sur place. Voilà. Donc le système qu'ils mettent en place, ils se disent voilà, si on veut pas que ça soit sous contrôle étatique, soit ils le mettent sous le contrôle, soit ils essaient de le mettre entre les mains de petits propriétaires. Économiquement parlant, c'est comme ça que ça se passe. Voilà.
Je voulais juste savoir depuis combien de temps ils sont émancipés, autonomes, indépendants, tout ça.
Alors, ça a commencé en juillet 2012, c'est-à-dire que c'est à partir de juillet 2012 que la révolution kurde a commencé. Alors, en fait, les troupes d'Assad, à ce moment-là, étaient en difficulté en Syrie, en particulier face aux rebelles, et ils ont donc décidé, ces troupes-là, de se retirer des parties à dominante kurde, en partie de ces dominantes, pour éviter d'ouvrir un nouveau front contre les Kurdes qui est en train de s'ouvrir. Voilà. Ils sont retirés et ils ont pris à ce moment-là, donc en juillet 2012, le pouvoir dans trois endroits. Afrin, le canton qui devient le canton d'Afrin, Kobané, le canton de Kobané, et Djezire, le canton de Djezire. Voilà. Qui se situe pour les connaisseurs, dans le gouvernorat d'Assaké. Donc, c'est depuis ce temps-là, en fait, qu'ils ont commencé à mettre en place leur système démocratique. En 2013, ils ont déclaré leur autonomie. Et là, cette année, là, il y a quelques temps, ils ont déclaré une fédération. C'est-à-dire qu'ils ont un projet politique maintenant pour la Syrie en disant on va créer une fédération en Syrie avec une forte autonomie des Kurdes. Et leurs grands objectifs à l'heure actuelle, là, ils essayent de dépasser un peu les zones à majorité kurde et ils aimeraient bien convaincre les zones à majorité arabe d'adopter leur système. C'est un peu là où ils en sont politiquement. Et bon, il n'y a pas que ça. Je résume un peu large. Mais voilà. Ouais, c'est assez récent. Ouais, ça fait quand même presque 4 ans maintenant. Ce qui est important, je pense, c'est que les gens commencent à s'informer sur cette révolution d'une importance énorme et sur lequel on n'a pas encore assez approfondi le sujet, à mon avis. Voilà. D'autres questions? Alors moi je pourrais encore parler.
Aujourd'hui c'est spécialement sur le Rojava, mais je sais que tu connais aussi très bien la situation en Turquie avec le PKK d'un côté et le HDP de l'autre, qui est la branche pas encore interdite, mais qui se réclame aussi du confédéralisme démocratique. Et je voudrais juste que tu nous fasses un parallèle entre leur lutte là-bas et la façon dont ils ont réussi à s'émanciper. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut, nous ici, à Paris, apprendre d'eux et s'inspirer pour... quelle stratégie on peut reprendre qu'ils ont utilisée pour gagner en émancipation et voilà.
Alors, c'est une question intéressante. Voilà. En Turquie, je reviens de Turquie également, hein, parce que j'avais fait la Syrie, l'Irak. Alors je me suis dit pourquoi pas la Turquie derrière, au Kurdistan turc. Alors donc j'ai été à Diyarbakir, la capitale du Kurdistan turc, on va dire ça comme ça, où il y avait le Nouvel An kurde, et je me suis rendu à cette occasion là-bas, dans le cadre de la délégation française. Alors, en Turquie, il y a la guerre civile, enfin, il y a une guerre qui est en cours, dont on parle peu aujourd'hui. Il y a eu des milliers de morts déjà. On ne sait pas exactement les pertes de chaque côté, mais c'est une véritable boucherie. avec des exactions extrêmement violentes de l'armée turque, donc des tortures, des arrestations arbitraires par dizaines de milliers. Dites-vous qu'ils ont mis des enfants, des mineurs de moins de 15 ans. Ils ont condamné à 15 ans, je crois, de prison pour terrorisme et insulte aux terroristes, juste parce qu'ils avaient dit Erdogan, espèce de cochon, ou un truc comme ça, enfin un truc. Et les gamins sont donc envoyés en prison aujourd'hui parce que vous insultez le cher président Erdogan. Voilà, donc bon, c'est une situation de répression extrêmement violente, avec une guerre qui a redémarré entre pas simplement le PKK et l'armée turque, mais aussi au sein des villes où des populations entières ont déclaré leur quartier, leur ville autogérée, où ils combattent de pied ferme l'armée turque qui tente de pénétrer dans ces quartiers et ils sont sous couvre-feu, ils ont plus de nourriture. Dans ces quartiers, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. C'est une guerre sale dans tous les sens du terme. Il y a même eu l'utilisation d'armes chimiques, on pense, sur place. Bon, on n'en parle pas non plus, mais on a retrouvé des corps dans des états, on va dire, douteux. Voilà. Donc, ils ont déclaré cette autonomie. Il faut savoir qu'en Turquie, comment ils ont procédé au fil des années. Au départ, en fait, le mouvement, ça va probablement vous étonner, mais la gauche turque et kurde sont très divisées, comme en France. Sauf que les grands courants de la gauche turque se sont réunis en fait dans la gauche radicale, parce que bon, je dis gauche, mais c'est disons quand même des gens qui ont des aspirations révolutionnaires pour beaucoup d'entre eux. Et qui sont regroupés, ils ont fondé le EDP, HDP en français, et le HDP est donc une représentation un peu de ces courants. Il a eu au Kurdistan turc plus de 90% des voix, quelque chose comme ça, donc un score stalinien, sans mauvais jeu de mots. Donc ces résultats ont été obtenus comment ? Ils ont été mis en fait en place par la mise en place au niveau local d'assemblées de quartier, de justice parallèle à l'État. C'est-à-dire que quand les gens avaient un problème, notamment quand c'était les femmes qui étaient opprimées, elles préféraient aller voir les tribunaux du HDP, ou qui étaient contrôlés par le HDP, pour résoudre leurs problèmes. Quand ils avaient des problèmes de voisinage, c'est pareil. Ils ont mis en place donc une justice parallèle, des milices parallèles qui protégeaient les quartiers, des problèmes d'infraction, d'incivilité, etc. Ils ont mis en place, en fait, un État parallèle décentralisé. Et petit à petit, se sont instaurés dans ces populations, etc. Et à la fin, ben, ils ont fait des scores considérables, justement, dans ce Kurdistan syrien. C'est-à-dire que c'est comme, pour donner un équivalent, c'est comme si, à Paris, ben, quand vous avez un problème de vol ou de voisinage, vous préférez aller voir le conseil de quartier qui dit, ah ouais, mais ça serait peut-être bien qu'on fasse plutôt comme ça pour s'arranger, on pourrait peut-être procéder de telle manière, c'est quand même dommage que vous engueulez, on a quand même les mêmes intérêts, quoi. Voilà. Donc, c'est comme si nous, à Nuit Debout, ben, on décidait justement que c'est plus la justice ici qui décide la justice de la Ve République, c'est plus la police de la Ve République qui doit nous protéger, mais c'est nous-mêmes. Et c'est nous qui décidons de quelle infrastructure on veut mettre en place, de ce qu'on veut faire. Et petit à petit, comme ça, ben, ils ont pris le pouvoir au Kurdistan turc. Et aujourd'hui, à part l'armée et la police turque, il n'y a plus rien de turc au Kurdistan turc dans sa politique. C'est-à-dire que la République turque n'existe pas politiquement, à part à travers son bras militaire. C'est pour ça qu'ils interviennent de façon déchaînée contre les populations à majorité kurde du Kurdistan. Et c'est une raison de plus, justement, qu'on aurait à soutenir ces éléments avancés d'une révolution, justement, qui est en train également de s'essemer au Kurdistan de Turquie. Voilà. Donc, après, je pourrais parler, il y a plein d'autres choses à parler. Il y a des universitaires qui sont aujourd'hui en prison. Il y a une répression contre la liberté d'expression énorme. J'ajouterais quand même quelque chose d'important sur le sujet de la Turquie, c'est que quand les Kurdes de Kobané ont gagné contre Daesh, il y a quelque chose qui est peu connu, c'est qu'ils ont vécu cette victoire comme une victoire contre la Turquie. Alors, on pourrait être étonné de penser ça, mais c'est que, en fait, le truc qu'on n'explique pas, c'est que, bon, vous êtes au courant tout ce qu'il y a deux grands journalistes du quotidien, comment est-ce le quotidien Ouais, hein. Ouais, justement, j'ai oublié le nom du quotidien. C'est Jump. Ouais. qui ont été arrêtés, et ces personnes donc qui sont responsables d'un grand quotidien turc qui n'est pas du tout gauche radicale, mais qui sont plutôt centristes, qui faisaient des investigations, ben ils ont été arrêtés parce que ils ont révélé une histoire où des flics, des policiers avaient contrôlé en fait un camion humanitaire rempli d'obus qui allait directement à Djerabulus qui était tenu par Daesh à ce moment-là. Donc ces obus, dans les médias français, on nous raconte que c'est destiné aux djihadistes, et parfois on précise pour un Al-Nusra, c'est faux, c'était destiné à Daesh. Il y a plusieurs preuves qui se sont accumulées depuis 2013 de la collaboration directe d'un point de vue logistique, d'un point de vue financier, d'un point de vue militaire entre Daesh et les services secrets turcs. C'est en fait ce soutien s'est manifesté par exemple à Kobané par un blocus total de la ville et par là où il y avait moins de caméras des livraisons d'armes à Tel Abyad, donc à peu près à 50-100 km de Kobané par l'armée turque directement. Et il y a des preuves de ça. C'est-à-dire ces journalistes ont été enfermés parce qu'ils ont révélé justement que l'armée, le service secret turc livrait des armes à Daesh. Et aujourd'hui dans les médias on n'en parle pas trop. Pourtant, c'est, je veux dire, il y a les photos. Il y avait un truc qui était quand même hallucinant, c'est que les ambulances turques traversent la frontière jusque dans les zones de combat contre les Kurdes pour récupérer les combattants blessés de Daesh pour les emmener dans les hôpitaux turcs. Et il y a même une phrase de ça. Il y avait un ami à moi qui allait là-bas, qui m'a montré juste après la prise de Tel Abyad, il m'a montré en fait des barbes coupées qui était semé par terre, et il m'a dit, en fait, avant de rentrer en Turquie, pour éviter que les équipes médicales se posent des questions, ils coupent les barbes des membres de Daesh pour pas que les équipes médicales se rendent compte du fait que c'était des djihadistes qu'ils étaient en train de soigner à l'hôpital. Donc ça va très loin, ce soutien, et c'est pas quelque chose d'anodin. Il y a eu également les preuves que la logistique. Il y a eu un rapport qui a été fait par le parti du CEP, donc qui est un parti de centre-gauche kémaliste, pour les connaisseurs. Ce parti en question avait fait un rapport sur une des villes du Kurdistan au sud de la Turquie, en frontalière avec la Syrie, qui expliquait que les prédicateurs de Daesh pouvaient librement s'exercer dans les mosquées pour appeler au djihad et recruter directement les personnes, qui foutaient à la vue de tout le monde dans les ambulances des combattants de Daesh pour faire traverser la frontière et y revenaient avec les blessés. Il y avait également dans ce rapport qui était tout aussi accablant, qui est encore une fois d'un journal quelque chose de centre gauche, complètement institutionnalisé et qui est pas du tout pro-kurde. Ils ont même massacré les Kurdes quand ils étaient au pouvoir avant. Bon. Donc, qui avaient justement donné ce rapport où ils montraient par A plus B comment on avait laissé Daesh et djihadistes de Daesh opérer en Turquie pour emmener les gens au djihad. Voilà. Donc c'est dans les rues. Il y a un truc qui est encore plus révélateur de ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des organisations caritatives islamistes qui ont repris le drapeau de Daesh. Ils sont allés dans les rues d'Istanbul et qui ont demandé de l'argent et de l'aide humanitaire avec le drapeau de repris de Daesh. Voilà. Alors ça, c'est encore complètement farfelu, à tel point qu'il y a eu ensuite un sondage où il y avait 50%, je crois, des Turcs qui pensaient que Daesh était une organisation turque. Et... Ouais. Donc voilà, donc je tiens à souligner ces faits qui sont assez accablants et qui sont pas du tout évoqués à l'heure actuelle dans les médias.
Monsieur, vous vouliez poser une question ?
Je voulais te poser la question parce que je suis iranien et j'étais dans le mouvement de Kurdes de l'Iran. Je suis iranien et j'étais dans le mouvement de Kurdes, dans le combat armé contre le régime de l'Iran. Alors la question que ça se pose aujourd'hui pour la question kurde, à mon avis, c'est plus, je veux voir qu'est-ce que tu en penses, plus c'est plutôt politique et idéologique. C'est-à-dire la question de l'autonomie. C'est la question de l'autonomie. Les Kurdes qui sont dispersés dans 4 pays, Syrie, Irak, Iran et Turquie. Alors, mais ça se pose un problème aujourd'hui de demander de l'autonomie, parce qu'il y a ingérence américaine et les autres pays impérialistes qui revendiquent la même chose aussi. C'est-à-dire qui ne soutenaient pas avant, ils réprimaient les mouvements d'autonomie dans tout ce pays-là, 30 ans avant. Mais après, maintenant, ils soutiennent ce mouvement d'autonomie. Alors, à partir de ce moment-là, ce n'est pas la question militaire qui est le plus important, c'est la question de ce changement d'idée de politique idéologique, porter une solution politique et idéologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en cause la frontière aujourd'hui, qu'il était de Sykes-Picot. C'est les Américains aussi qui le souhaitent, d'enlever et changer ces frontières. Alors, du coup, c'est la meilleure solution, c'est d'un fédéralisme dans le pays actuel. C'est-à-dire le Kurde qu'il propose, qu'il reste dans le pays et qu'il défend lui. Voilà. Alors, sinon, après, on ne sait pas qu'est-ce que ça va.
Allô?
Oui. Ça peut arriver des guerres permanentes dans cette région, au niveau de... Oui, même, vous voyez, dans le cas de Irak. Aujourd'hui, en Irak, ce qu'il dirige, Barzani, c'est un féodal, qui là, vraiment, il y a une grande corruption dans son gouvernement, et il est soutenu par la Turquie, par les Américains, mais dans le but de entrer dans un conflit avec les voisins. Alors, c'est ça la question de autodétermination aujourd'hui, dirigée par les forces impérialistes dans la région, ça va donner de conséquences très négatives.
Alors, la question exacte, c'est... Alors, excuse-moi, si je pourrais formuler ta question, dans l'idée, c'est quel rapport l'autonomie kurde avec les impérialistes, c'est ça?
Oui.
D'accord.
La question de autodétermination aujourd'hui, il est différent que depuis 30 ans. Après l'éclatement de l'Union soviétique, l'Occident, il a commencé de défendre de minorités dans cette région, et même par exemple ex-Yougoslavie, ils ont défendu de petites nations contre un État puissant qui pouvait faire face aux forces impérialistes encore. Alors la question, c'était première fois, je crois, c'est autodétermination, c'était formulé par Lénine, alors qu'il proposait jusqu'à séparation et de faire son État. Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui de cette formulation? Lénine, déjà, il l'avait mis en conditionnel, c'est-à-dire il avait mis en conditionnel, c'était l'intérêt du peuple entier de cette région. Et, alors, c'est pour ça que cette ingérence dans le pays aussi, il est lié aussi avec les questions de Kurdes. Il est pas, on peut pas l'analyser d'une manière séparée.
Moi, je suis bien sûr que c'est intrinsèquement lié à la question kurde, tout ça. Enfin, alors, Rojava, ça major... là actuellement, franchement, les flics déjà qui nous emmerdent, maintenant ils foutent du son à fond. Oh là là. Bon, la question par rapport aux relations aux puissances impérialistes et à l'idée que comment peuvent s'imposer donc les Kurdes aujourd'hui au Moyen-Orient face aux pressions extérieures, c'est une question complexe. Aujourd'hui, ils sont aidés ponctuellement par les Américains, par des bombardements ponctuels sur tel ou tel endroit, et ils les aident que s'ils ont un accord, c'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, les troupes kurdes étaient sur le point de prendre une ville au poste frontière stratégique à Daesh, qui était Tel Abyad. Quand ils attaquaient depuis Zirée, les Américains, au début, ont refusé de bombarder. Alors ça, c'est très peu connu. Bon, je le sais parce que j'ai été informé de la chose. Et ils ont bombardé qu'à la fin, quand ils ont vu que les troupes kurdes, en fait, étaient sur le point de prendre la ville et ne voulaient pas passer pour les gens qui arrivaient derrière. Bon. Les Américains, en fait, rechignent perpétuellement à faire des interventions, à bombarder, à faire des choix. Alors, ça,
soutien ponctuel et limité qui n'est pas tout total comme on pourrait croire et qui est extrêmement partiel, et ils font très attention à pas trop provoquer leur allié turc. Voilà. Dans ce cadre-là, par contre, c'est plus comme avant où les Américains considèrent les Kurdes comme des terroristes tous. Donc ça met la diplomatie américaine dans une situation un peu complexe. En même temps, les soutiens en Syrie, en même temps les soutiens pas en Turquie, où là c'est normal qu'on les massacre, mais en Syrie c'est normal qu'on les soutienne. Donc ils sont un peu dans une dédoublement de personnalité sur cette question-là, mais dans les négociations diplomatiques, ils font tout pour empêcher qu'un État turc ou en tout cas une autonomie kurde se mette en place pour le moment. C'est-à-dire qu'ils sont très très hostiles à ça et qu'ils les aident de façon ponctuelle parce que ça les arrange. Mais à tout moment, ça peut se retourner, ils peuvent se faire bombarder par les Américains. Donc la place au niveau des puissances impérialistes est fragile, mais meilleure qu'il y a 10 ans où tous les Kurdes, c'était des terroristes du PKK qu'il fallait éliminer. Voilà. Donc ça se présente mieux pour qu'ils s'imposent dans la région au vu du chaos régional, mais ça reste en grande difficulté et de façon assez fragile. Voilà.
Le fait qu'ils apportent leur soutien que de temps en temps, c'est pour la diviser pour mieux régner, du coup, c'est pour empêcher qu'il y ait soit un courant idéologique, soit un État qui devienne plus grand qu'un autre et qui du coup serait potentiellement un adversaire de taille contre contre les Américains par exemple, je pense. Et du coup, ils font en sorte qu'il y ait des petites escarmouches un peu partout pour que ce soit constamment le bazar dans ces endroits-là et qu'il n'y ait jamais une force qui s'empare plus qu'une autre pour qu'ils aient quand même une supériorité, quoi.
Alors, moi, je ne le formulerai pas tout à fait comme ça. La politique de l'impérialisme américain, en fait, au Moyen-Orient, point 1, c'était le bordel déjà avant que les Américains débarquent en Irak. Hein. Bon. Ce qu'ont fait les Américains, c'est qu'ils ont aggravé la situation par leur intervention impérialiste de façon scandaleuse. Et bon, je pense en fait qu'ils sont un peu désemparés. C'est-à-dire que d'un côté, on pourrait croire qu'ils essayent de foutre le bazar par-ci par-là. Je pense qu'il y a parfois cette volonté-là, mais c'est pas toujours ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand votre principal allié dans la région c'est la Turquie qui a soutien Daesh et que vous voulez combattre Daesh, à part les Kurdes, vous n'avez pas grand monde. Parce que les groupes rebelles syriens, ce qu'on dit pas, c'est qu'en 2013, ils étaient tous alliés, que ce soit les islamistes, les modérés, les djihadistes. Tous les groupes se sont unis contre les Kurdes pour essayer de les tuer, sans exception. Donc, il y a quelques exceptions, mais disons la très grande majorité, très large, voilà, qui se sont unis contre les Kurdes pour les combattre. Pourquoi ? Parce que tous ces groupes sont reliés à la Turquie. Donc si vous voulez trouver une solution face au problème de Daesh, etc., vous pouvez pas passer par le principal allié qui est la Turquie. Voilà. Donc c'est aussi pour ça, en fait, qu'ils sont un peu le cul entre deux chaises et qu'un coup, ils font une décision favorable à la Turquie, un coup, ils font une décision favorable aux Kurdes et qu'ils oscillent. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont même pas pensé comme des gens super puissants qui ont une volée des stratégies qui contrôlent tout. Bien sûr qu'ils ont des stratégies à un moment donné, qu'ils usent de complots, etc., mais que c'est pas, ça ne définit pas fondamentalement la politique, leur politique au Moyen-Orient. C'est-à-dire que, je pense qu'ils ont aussi une part de, ils ont perdu le contrôle. Je pense pas que, par exemple, quand ils sont intervenus en Irak, chose assez drôle, c'est que ça a renforcé le PKK. Je pense pas qu'ils avaient ça en tête, par exemple. Bon. Donc c'est toutes ces questions qui font que je pense que les Américains, ils savent plus sur quel pied danser pour contrôler la région. Voilà.
Alors. Tu parlais des médias tout à l'heure, donc pour essayer de créer un lien entre ce qui se passe chez nous et ce qui se passe là-bas, je voulais avoir ton avis sur pourquoi les grands médias en France n'en parlent pas, même si ça fait un peu question naïve. Voilà, selon toi, pourquoi les médias français les plus gros ne parlent pas de la situation au Rojava? Rojava. Et puis aussi pourquoi il y a tu disais que Daesh que il voulait pas dire non plus que la Turquie et Daesh finalement ça pouvait être étaient des alliés, voire étaient la même entité, ou en tout cas avaient des liens. Et voilà, pourquoi ils n'en parlent pas non plus.
Alors, bonne question. Alors, déjà, j'ai commencé pour répondre à la question. Il y a plusieurs approches médiatiques de la question kurde par les médias. L'approche la plus classique, c'est on va pas trop en parler, on ignore. En général, c'est sur le Rojava, on n'en parle pas. Ça, c'est le premier truc. Bon. Deuxième approche, c'est on en parle, mais on dit quand même que c'est des méchants du PKK et que c'est quand même pas très bien, quoi. Hein. Et puis, ils font du nettoyage ethnique et ils éliminent les Arabes. Bon, il faudra expliquer que 30% des milices dites kurdes sont en fait des Arabes. Donc, c'est difficile de faire un nettoyage ethnique avec un tiers de son armée composée de l'ethnie en question. Bon, puis bon, j'en passe, mais voilà. Donc, le deuxième truc, c'est oui, il y a eu un rapport, ils font du nettoyage ethnique. Oui, quand même, bon, ils combattent Daesh, mais voilà, c'est quand même des gros autoritaires méchants qui imposent leur volonté à leur population, qui sont super hégémoniques. Ah, ils ont réprimé d'ailleurs le PDK. Alors, ce qu'ils disent pas, c'est que le PDK, bon, parce qu'il y a un parti lié au Kurdistan irakien, au gouvernement du Kurdistan irakien, qui est lui tribal et profondément réactionnaire. Cherchaient à organiser des insurrections carrément au Rojava. À un moment donné, ils ont payé des gens pour faire ça. Bon, donc à chaque fois, soit on dit pas le truc en entier, soit on parle quand même. Bon, c'est vrai qu'on a besoin d'eux, mais c'est quand même des salauds, quoi. Souvent c'est ça. Et dernière approche qu'on peut voir dans les médias, qui est entre guillemets la moins pire, c'est mais quand même, ils ont des femmes combattantes, c'est la classe. Et puis là, ils vous montrent les femmes qui combattent. Alors c'est vrai que c'est impressionnant. Hein, bon. Là, c'est l'approche, en fait, ce que je dirais superficielle, c'est les Kurdes, c'est les gens avec qui ont des femmes combattantes et c'est bien. Bon, c'est-à-dire qu'on parle pas du système derrière, on parle pas de l'auto-organisation des femmes, on parle surtout pas de ce qu'il y a dans le fond. Donc ça, c'est trois approches médiatiques. Comment on pourrait résumer la question, c'est que si on commence à parler d'un système, un peu comme on aspire à Nuit debout avec des démocraties radicales qui s'appliquent, déjà, bon, ça pose des soucis. Deuxième chose, d'un point de vue diplomatique, la France, c'est les alliés de la Turquie. Ils ont énormément d'accords commerciaux entre la Turquie et la France, qui fait que ils protègent les intérêts aussi de la Turquie. C'est-à-dire que Hollande, ça a été quand même une des premières personnes qui a soutenu la zone de tampon imposée en Syrie, qui était une attaque contre les Kurdes, parce que c'était une zone située dans le Rojava. C'est le premier donc à se porter garant de la Turquie pour dire voilà. On va soutenir notre allié turc plutôt que favoriser cette bande de Kurdes, quoi. Donc ils sont dans cette logique là, c'est-à-dire qu'on va soutenir notre allié, donc on n'en parle pas. Voilà, et tous les médias sont comme ça, c'est-à-dire que même sur les conflits actuellement en Turquie qui a fait des milliers de morts, comme je le répète, de façon qui a été extrêmement violent, c'est pareil, dans les médias on n'en parle pas trop. Enfin, de temps en temps il y a un article qui parle de ça, ou une fois tous les mois vous avez peut-être une petite info à la télé, mais c'est très très partiel. D'accord. Voilà, c'est par intérêt de protection économique et diplomatique avec la Turquie principalement que aujourd'hui, ils sont sur la réserve et que voilà. Et puis même, pourquoi il y en a qui soutiendraient partiellement, donc bon, ils seraient pas forcément contingents. C'est simplement parce que le journalisme aujourd'hui, c'est faire un reportage en 24 heures. Tu dois étudier le sujet, tu boucles ton truc à l'arrache et ensuite t'envoies ton sujet. Donc forcément, ils vont pas approfondir. Aussi cet aspect-là, bon, moi, j'ai pas abordé. Alors, il y a une question.
Oui, alors tu dis que les Américains, ils n'ont pas une idée claire dans la région. Je crois qu'ils ont. Ça s'appelle l'idée de Grand Moyen-Orient. Alors, et qu'ils ont commencé cette idée de Grand Moyen-Orient avec l'intervention en Irak militairement et dans d'autres régions de ces Moyen-Orient. Alors, ils ont un projet de Grand Moyen-Orient, grand chantier de capitalisme néolibéral. C'est-à-dire, quand même si nous sommes loin de cette région, il faut avoir une vision universelle pour analyser, pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ça se passe la même chose qui se passe ici. C'est-à-dire, c'est le capitalisme néolibéral qui essaye de ne pas avoir les États forts sociaux en face. Alors, c'est-à-dire, ils cherchent des États qu'ils peuvent dominer facilement et qu'ils ne présentent pas État-nation, qui soit dirigé par le chef de tribu. ou de conflits de tribus religieux interminables dans cette région. Alors ils ont une projet, c'est un... mais leur méthode a changé depuis certains temps, c'est-à-dire avec sanctions, avec les moyens financiers, répression économique, politique, diplomatique, il arrive, depuis quelques années, il arrive à obtenir le même résultat. On le voit avec l'Iran. Je suis iranien. Alors, ils ont arrivé à faire céder le régime de l'Iran et de le reculer, de le faire reculer avec tous ces moyens-là sans usage des armes.
Alors, comment dire? Quand je dis qu'ils n'avaient pas les idées claires, c'est juste que tactiquement, en fait, ils font des allers-retours entre des personnes qui sont très opposées entre eux dans la région. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un projet économique clair sur, bien sûr, capitaliste, néolibéral. Ça, j'ai jamais nié. Mais n'empêche que pour l'appliquer, ils sont pas toujours, c'est pas toujours quelque chose de simple, parce que je pense pas qu'ils puissent appliquer le capitalisme néolibéral avec un Rojava en place. Donc, pourtant, ils le soutiennent partiellement. Donc, c'est quand même un élément pour dire qu'ils ont parfois des grands écarts stratégiques un peu. Qui sont pas diplomatiquement, on va dire, d'une droite, quoi. Voilà. Alors maintenant, on m'a invité à conclure, donc je vais conclure. Alors, je conclurai par dire que si aujourd'hui à Nuit Debout, on veut s'inspirer d'expériences concrètes et réelles sur qu'est-ce que c'est la démocratie, comment on fait avec les minorités, comment on intervient pour changer les choses ici, le Rojava c'est un bon exemple. C'est un bon exemple à bien des égards, parce que c'est une minorité qui prend le pouvoir dans ces zones où elle est majoritaire. C'est un bon exemple parce qu'ils instaurent un système de démocratie radicale. C'est un bon exemple parce que ils sont dans une dynamique quand même de victoire où ça marche. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans une posture stagnante avec des merveilleuses avancées, que ça soit pour la question des femmes, que ça soit pour la question des chrétiens sur place, des arméniens, des arabes, etc. Et toutes ces populations-là sont aujourd'hui ensemble et soudées pour progresser et avancer justement vers un système viable, démocratique, où on puisse tous vivre ensemble sans que il y ait la guerre entre nous pour diverses raisons. Parce qu'on a des différences, voilà. Donc je vous inviterai bien sûr à étudier plus profondément la question. Si vous voulez, j'ai un blog où j'ai publié plusieurs articles dessus qui s'appelle donc Raphaël Le Brugia. Alors Le Brugia, LEBRUJAH. Alors je vais le répéter pour ceux qui prennent des notes. Ça marche. Bah, apparemment, on m'indique que ça sera mis dans le. Donc, je répète quand même parce que je vois qu'il y a des gens. Alors, Raphaël Le Brugia, LEBRUJAH. C'est un blog sur Mediapart. Donc, vous le trouverez. J'ai écrit pas mal d'articles. Alors, j'ai pas encore écrit des articles sur mon voyage, mais vous allez en trouver plein d'autres sur ce que j'ai écrit avant, qui sont, j'espère, pourront vous plaire. Voilà, si des gens veulent approfondir la discussion, ils peuvent venir me voir à la fin et venir me parler, il n'y a pas de problème, on peut en discuter. Et je finirai par dire, il faut qu'on ait vraiment un mouvement qui parle du Rojava, qui aujourd'hui justement fait de la pub à une révolution qui a apporté des avancées énormes d'un point de vue social et concret à des gens sur place, et que ça serait intéressant qu'on s'intéresse un peu à leur théorie, et un peu moins ethnocentré, un peu moins être européano-centré que ce qu'on a été jusqu'à présent.